Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddei.
Bonjour, bon dimanche. On va s'intéresser ce matin à la polémique autour du salaire de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. 36,5 millions d'euros, vous vous rendez compte? C'est seulement la moitié de ce que gagne Kylian Mbappé. On va voir comment l'explique un économiste libéral comme Jean-Marc Daniel. Et puis on va s'intéresser à l'immortalité que nous promet Laurent Alexandre dans son nouveau livre « ChatGPT va nous rendre immortels » et au 150e anniversaire de l'impressionnisme avec Cyril Siama, le directeur du musée des impressionnismes à Giverny qui organise une exposition sur l'impressionnisme et la mer. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'économie mondiale chez Talendier, de comprendre les crises économiques avec Christina Pecuti aux Presses universitaires de France. Vous pouvez certainement nous aider à comprendre pourquoi, de nos jours, le patron le mieux payé de France, Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial qui emploie 258 000 personnes et a réalisé 18,6 milliards de bénéfices l'année dernière, un record, gagne moitié moins d'argent qu'un footballeur, même aussi génial que Kylian Mbappé. On sait que les inégalités se creusent, mais à ce point, ça paraît fou. Arrêtons-nous d'abord sur le montant de la rémunération de Carlos Tavares, qui a fait scandale, 36,5 millions pour l'année écoulée, soit 56% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Il est le patron du secteur automobile le mieux payé du monde, 5 fois plus que ce que touchent ses homologues japonais ou allemands. Comment on l'explique ?
Alors, je pense qu'on l'explique par deux éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il y a une petite tranche de gens qui ont le revenu a considérablement augmenté. Si on compare à son prédécesseur lointain, qui était à la tête de Peugeot, Jacques Calvé, dans les années 80. Donc, Jacques Calvé avait fait scandale déjà à l'époque pour avoir une rémunération en 1987 de l'équivalent aujourd'hui de 630 000 euros. Donc, ah oui. On est passé de 630 000 euros à 36 millions d'euros. Et donc, on est donc sur une tranche de gens extrêmement réduite qui, par rapport à la période de Calvé, a bénéficié de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'ouverture de la concurrence parmi les entreprises. C'est-à-dire qu'avant, Jacques Calvé, il était PDG de Peugeot. Tavares, il est PDG d'un groupe dans lequel il y a Chrysler, il y a Fiat, il y a Peugeot, et il est susceptible de les mettre, ce groupe, en concurrence avec, vous parlez des Japonais ou des Allemands, il est susceptible de les mettre en concurrence. Ce que racontait notre Carlos Ghosn, au temps de sa splendeur, c'est qu'il avait le choix entre Renault et General Motors, c'est qu'il avait été appelé directement par Barack Obama, président des États-Unis, pour lui proposer le poste de General Motors. Et quand il était en prison au Japon, il dit « j'ai eu tort de ne pas accepter parce que j'aurais été encore mieux payé que chez Renault et je me retrouverais pas aujourd'hui en prison ». Donc il y a une mise en concurrence par cette petite élite qui est assez réduite, qui est assez peu évoluée en nombre, vis-à-vis de l'ensemble du monde des affaires mondialisées. Grosso modo, encore une fois, j'insiste là-dessus, Calvé, il était français, il était chez Peugeot. Tavares, il est mondial et il est dans une entreprise mondialisée. La deuxième remarque que je ferai, c'est que depuis la période de Calvé, il y a eu une expansion considérable de la quantité de monnaie en circulation. Toutes les politiques monétaires ont mis en place énormément de moyens, avec une capacité des banques centrales à contenir la dérive des prix à la consommation. Et donc, elles n'ont pas pu contenir la dérive de ce qu'on appelle le capital. Alors, le capital physique, l'immobilier a explosé un peu partout, le capital humain. Il y a un certain nombre d'endroits où, effectivement, le prix du capital humain a considérablement augmenté et ce sont les endroits où les gens ne sont pas vraiment en concurrence. Encore une fois, Tavares, il va voir les gens et il dit « si vous trouvez l'équivalent, allez-y ». D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à ses actionnaires. Il n'y a aucun problème. Si vous trouvez quelqu'un qui vous rapporte autant, il n'y a aucun problème. Vous le prenez. Et la réaction immédiate des actionnaires historiques de Peugeot et de Fiat, c'est de dire « non, 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 non ». Alors qu'il y a des cris dans la presse, c'est scandaleux, c'est honteux. Les actionnaires historiques qui sont à l'origine de la reconstruction de Stellantis disent « non, non, on garde Carlos Tavares à 36 millions, il n'y a aucun problème ».
Oui, et au fond, c'est un salarié comme les autres. Ça n'est pas un rentier. Il vient au bureau tous les jours, Carlos Tavares, et il est payé. Enfin, chez Stellantis, on applique la règle « pay for performance ». Quoi. Le record de 2023, 18,6 milliards de bénéfices, ça lui a profité, mais ça a valu aussi aux salariés du groupe une récompense d'1,9 milliard d'euros. Mais bon, comme ils sont très nombreux dans le monde, ça fait à la fin que 80% des salariés en France n'ont touché que 3700 euros net d'intéressement. On est loin des 20 millions d'augmentation de Carlos Tavares.
Oui, la différence qu'il y a entre les salariés de Stellantis et Carlos Tavares, encore une fois, c'est le fait que les salariés de Stellantis, ils sont en concurrence. Et ils sont de plus en plus en concurrence avec des salariés dans le monde entier. Je reviens là aussi à l'époque de Calvé. Les salariés de Peugeot, ils étaient en concurrence avec des salariés de Peugeot en France. Belfort était en concurrence avec Poissy. Là, maintenant, les salariés de Stellantis, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a en France, il y en a en Italie. Et tous ces gens-là sont en concurrence. Alors que Tavares, alors à titre, on peut considérer que c'est une imposture, mais il a réussi à persuader les actionnaires qu'il est unique dans son genre, ou tout au moins qu'il appartient à un club très fermé qui peut à tout instant dire « je m'en vais, je vais ailleurs ».
Mais justement, c'est la question que l'on se pose, c'est est-ce que la performance de Stellantis, qui se classe aujourd'hui 16e au classement des entreprises les plus rentables du monde, hein, est-ce que cette performance est due au PDG ou à ses employés ? Une étude récente portant sur 5000 PDG qui prend en compte l'héritage que celui-ci a trouvé à sa prise de poste quand il est arrivé. Carlos Tavares, c'était pas reluisant hein, à l'époque, ni Peugeot ni Stellantis. Le poids de l'entreprise dans son secteur, etc., etc. On regarde tout et on évalue l'effet PDG à presque 40% de la performance d'une entreprise. Est-ce que ça vous semble plausible ?
Alors c'est assez plausible parce que juste avant Carlos Tavares, donc il y a plusieurs entreprises dans Stellantis. Et mais chez Fiat, par exemple, vous prenez à l'époque là aussi de Jacques Calvé, tout le monde considérait que Fiat était une entreprise en voie de disparition. On disait il y a trop d'entreprises automobiles à la surface de l'Europe et s'il y en a une qui va disparaître, c'est probablement Fiat. Et puis Fiat, ça fait des réformes. Et avant Tavares, à la tête de Fiat, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sergio Marchionne, qui était un personnage assez haut en couleur. Il n'avait jamais de veste, il était toujours avec un chandail. Et donc ce Sergio Marchionne a redressé Fiat, a eu l'idée d'aller acheter Chrysler. C'est lui qui a eu l'idée de la Fiat 500 renouvelée et remise en service. C'est lui qui a, chez Chrysler, trouvé l'idée qu'il y avait la Jeep dans le patrimoine de Chrysler. Et donc il fallait réutiliser le mot et l'idée qu'il y a derrière la Jeep. Donc il a eu un réel impact sur la vie de l'entreprise. Et on le voit bien, Carlos Ghosn était en concurrence à la tête de General Motors avec une dame qui s'appelle Marie Barra. Elle a fait un travail absolument exceptionnel et elle est payée moins que Carlos Tavares, mais elle n'est quand même pas au SMIC. Hein. Et donc, il y a quand même un impact du PDG. Alors après, vous avez tout un tas de théories de management qui disent soit c'est leur talent, soit c'est leur chance. Il y a des gens qui sont là au bon moment. Après tout, Tavares, encore une fois, il a trouvé des choses qui étaient en mauvais état, mais il a trouvé aussi l'héritage de Sergio Marchionne et sa sagesse a peut-être été de ne pas trop toucher à ce qu'avait fait Sergio Marchionne.
Oui, on va maintenant prendre le cas de Kylian Mbappé. Hein. Il est payé au Paris Saint-Germain le double de Carlos Tavares, 72 millions annuels. C'est un footballeur extraordinaire au sommet de son art. Mais comment expliquez-vous qu'il gagne le double d'un grand patron qui peut se vanter d'avoir fait plus de 18 milliards de bénéfices l'année dernière ? Est-ce que là aussi, il y a une explication ? Et surtout, alors avant d'entrer dans l'explication, comment ça se fait que ça choque personne ? Il n'y a pas de polémique, là.
Alors, il n'y a pas de polémique. Ce que je trouve intéressant, j'ai ressorti un texte relativement ancien, puisque c'était un texte de la fin des années 90, qui avait été le renouvellement du programme de la gauche socialiste par Tony Blair, Schröder et tout ça. Et il y avait cette formule, une société juste est une société qui célèbre les mérites des chefs d'entreprise performants au même titre que ceux des artistes ou des footballeurs. Donc déjà à la fin des années 90, la gauche qui se voulait réformatrice disait écoutez, c'est pas normal que les footballeurs gagnent autant. On est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que Mbappé, il est unique en son genre. Si vous regardez ce que gagnent les footballeurs de Ligue 1, en moyenne, ils gagnent 1 million par an. Mbappé, il gagne 70 fois plus. C'est parce que, et pourquoi il arrive à ça ? Parce que lui, il peut dire, si je ne reste pas au PSG, je vais
au Real. On s'interrompt, Jean-Marc Daniel, on fait une pause et on y revient tout de suite après.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï. L'économiste Jean-Marc Daniel est en direct avec nous ce matin. On s'amuse à comparer le salaire de Carlos Tavares de plus de 36 millions d'euros par an avec celui de Kylian Mbappé de 72 millions dans l'année, le double donc. Alors pourquoi celui de Tavares choque et pas celui d'Mbappé ? Peut-être que parce que Kylian Mbappé, il court avec le ballon sur le terrain. Il marque Marc débute. C'est un travailleur dont le mérite est objectif et même spectaculaire. Il s'agit d'un travail d'équipe, bien sûr, mais d'une équipe réduite dont tous les membres touchent généralement un salaire astronomique. Ça nous paraît moins injuste que Carlos Tavares, qui, lui, on se dit, bon, bah, en fait, il a 280 000 employés aussi, boss.
Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément, il y a un certain nombre de gens qui gagnent énormément d'argent, mais qu'on ne connaît pas. C'est pour vivre, revivre, caché. Je rappelle assez souvent que on voit Barack Obama, on se souvient de Barack Obama, mais on ne réalise pas que Barack Obama réclame 500 000 dollars pour faire une conférence d'une heure et demie, alors que l'exemple historique qu'on met en avant, c'est Truman, qui a été président des États-Unis et juste après Roosevelt, et qui faisait des conférences gratuitement et demandait simplement de ne pas avoir à payer le billet d'avion pour aller à la conférence. Donc, Barack Obama, personne ne sait exactement combien il gagne. Et puis, il y a ceux, quand on le voit, dont on peut considérer effectivement qu'ils sont véritablement à l'origine de leur talent. Donc Mbappé, c'est le cas. Et comme vous le disiez, Tavares, il ne bénéficie en réalité que de l'effort de tous ces gens qui sont derrière lui. Lui, il n'est jamais que... Or, ce que montre l'expérience, c'est quand même que quand il y a un mauvais PDG, l'entreprise est menacée et finit par disparaître. Ce que montrent aussi les indignations, c'est qu'il y a une confusion dans l'esprit entre la vieille idée anticapitaliste, c'est l'exploitation, c'est des profits, c'est... Donc on pourrait appliquer à Elon Musk plutôt qu'à Tavares.
Oui, Tavares, c'est encore une fois un salarié
comme un autre. C'est un salarié comme un autre. C'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, il est centralien, il est rentré dans une entreprise, il a montré un talent qui était de la même nature que ce que pouvait montrer Mbappé. On l'a vu à l'œuvre. Et progressivement, il est monté, il est devenu ce qu'il est. Mais il y a dans l'état d'esprit des gens, c'est que c'est forcément un capitaliste, donc il exploite les travailleurs. Donc il y a une illégitimité par référence au capitalisme. Mais ce que je disais avant la pause, c'est que même la gauche modérée de gouvernement dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui est quelque chose d'artificiel. Il faut quand même reconnaître le fait qu'un grand chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a du talent, qu'il soit salarié ou qu'il soit entrepreneur et créateur de l'entreprise.
Mais quand on parle de super rémunération comme celle de Kylian Mbappé ou de Carlos Tavares, on invoque en général la mondialisation ou le néolibéralisme. Mais est-ce que ça n'est pas d'abord parce que la façon de produire des richesses a beaucoup changé depuis un demi-siècle ? Il y a 50 ans, Michel Platini gagnait l'équivalent de 3600 euros actuels par mois à l'AS Nancy-Lorraine. C'était avant la publicité dans les stades et sur les maillots, avant que les droits télé du football ne remplissent les caisses des clubs. Il y a 50 ans, les PDG des 500 plus grosses entreprises américaines gagnaient 20 fois le salaire moyen des employés de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est 340 fois. Mais c'est lié au cours en bourse de l'entreprise qu'ils dirigent.
Oui, il y a la recherche du cours en bourse, mais derrière le cours en bourse, normalement, effectivement, il y a des épargnants. Alors, on met souvent en avant les fonds de pension, d'ailleurs, avec une confusion. On confond en général fonds d'investissement qui a une vocation à gagner de l'argent relatif court terme. Et puis les fonds de pension, c'est des fonds de retraite. Ça paye les retraites de gens qui sont en général déjà assez modestes. Et donc il y a plutôt une vision de long terme. Donc le fonds de pension, c'est plutôt une vision de long terme. La grande différence avec ce qui se passait dans les années, à la fois les années dites les 30 glorieuses et puis les années du 19e siècle au début du capitalisme, c'est qu'on faisait véritablement fortune à cette époque-là avec deux soutiens. On crée une entreprise et dans un cadre où on était relativement abrité. Donc, celui qui faisait fortune, c'était le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, dans un cadre où il y avait assez peu de concurrence. Donc, assez vite, il accumulait, grâce à un processus de ce qu'on appelle des rentes, il accumulait des profits et il faisait fortune. Et puis, il y avait encore, c'est ce que soulignait d'ailleurs en son temps Jean Fourastier, qui était le fondateur de la formule des 30 Glorieuses, il disait que pendant très longtemps, on a fait fortune grâce à l'État. Il disait on pouvait faire fortune en étant haut fonctionnaire. Et il rappelait dans un de ses livres la formule célèbre de Talleyrand, quand on le nomme ministre des Relations Extérieures, il dit « je vais enfin pouvoir faire une immense fortune ». C'est-à-dire que pendant très longtemps, Fourassier parle des conseillers d'État, il dit « un conseiller d'État, c'est quelqu'un qui arrive à faire fortune ». Maintenant, tout ça est fini, les hauts fonctionnaires ne font pas fortune et les entrepreneurs sont soumis en permanence à une pression concurrentielle. La grande différence par rapport à tout ça, c'est la concurrence et le fait que effectivement, les entreprises sont obligées d'arbitrer entre les différents managers qui peuvent leur permettre de se développer parce que si elles n'ont pas un bon manager, la concurrence les détruit. Les actionnaires font des arbitrages entre les entreprises performantes et les entreprises peu performantes. Et donc, le véritable élément qui a modifié tout ça, c'est l'introduction de la concurrence et tout le monde n'est pas égal devant la concurrence. Je parlais de Barack Obama. Il n'y a qu'un seul, enfin il y a les Clinton aussi qui ont fait plus de 200 millions de capital accumulé depuis 2001 par les conférences de Bill Clinton. Il n'y a pas beaucoup de présidents des États-Unis, d'anciens présidents des États-Unis sur le marché. Kylian Mbappé il n'y en a pas énormément qui marquent autant de buts que lui.
Alors, il y en a aussi, il y a Elon Musk. Elon Musk, lui, demande 45 milliards de rémunération pour ses performances à la tête de Tesla. 45 milliards,
oui.
Pas millions, milliards. Et au début, il voulait 56 milliards, mais ça lui a été refusé par la justice du Delaware en janvier dernier. Là, c'est les actionnaires qui vont devoir trancher pour les 45 milliards. L'action de Tesla a chuté de 63% en bourse depuis 2021, ce qui fait 700 milliards de capitalisation volatilisée. Si vous étiez un actionnaire de Tesla, est-ce que vous voteriez 45 milliards de rémunération pour Elon Musk?
Non, je voterais non, et puis je vendrai mes actions assez vite parce que Elon Musk a une stratégie qui est une stratégie un peu surprenante à certains aspects. Alors il y a un bluff, il a créé un personnage. Le véritable enjeu, c'est la capacité à valoriser ce personnage. Et donc je pense que je serai actionnaire de Tesla, je commencerai à me poser des questions sur le côté loufoque de ce qu'il dit par rapport à ce que ça peut rapporter. Je pense qu'une stratégie de loufoquerie, c'est pas forcément idiot, c'est pas forcément absurde. Et des annonces totalement surréalistes dont on sait pertinemment qu'elles n'auront jamais lieu, c'est pas non plus totalement absurde.
Vous voulez dire quand il dit qu'on sera sur Mars
ou dans des éléments très simples, quand il avait lancé l'idée d'un projet de train à très grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco où on pouvait aller entre les deux villes en une demi-heure. Bon, pourquoi pas? Mais il y a un moment où effectivement on se demande si sa comédie est maîtrisée ou s'il n'y a pas quelque chose en lui qui commence à devenir irresponsable.
Merci Jean-Marc Daniel. Merci pour tous ces éclaircissements. On fait une pause et on retrouve Laurent Alexandre. On va parler d'immortalité.
9h, 10h.
C'est arrivé demain sur Europe 1.
Docteur Laurent Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes devenu célèbre en 2011 avec un livre, La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité. 13 ans plus tard, vous publiez toujours chez Jean-Claude Lattès, ChatGPT va nous rendre immortels. C'est vrai que vous faites partie de ceux qui voient l'intelligence artificielle comme une opportunité plutôt que comme une menace. Mais en quoi est-elle une opportunité pour nous rendre immortels?
Ah, de deux façons. D'abord, l'intelligence artificielle va faire reculer la mort parce qu'on va améliorer les techniques permettant de retarder le vieillissement. L'intelligence artificielle va guérir les 45% de cancers qui restent aujourd'hui mortels et qui ne sont pas encore curables. Et puis, dans un deuxième temps, le but de la Silicon Valley, c'est de se servir de l'intelligence artificielle pour fusionner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et nous apporter cette fois-ci, non pas une immortalité biologique, mais une immortalité numérique. C'est notamment le souhait des dirigeants de Google de transférer le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs de manière à ce que nous devenions des sortes de cyborgs.
Alors c'est vrai que la médecine peut repousser la mort biologique. Hein. Elle est à l'œuvre depuis longtemps. Elle a réussi à allonger notre espérance de vie à 80 ans pour les hommes et à 85 ans pour les femmes en France. On peut améliorer le corps humain grâce à la technologie. Ça aussi, on le fait depuis longtemps, mais c'est assez lent. Et le record de Jacques Calment, morte à 122 ans en 1997, n'a toujours pas été battu ni égalé, hein, en dépit des investissements de Google.
Bien sûr, mais dépasser 122-123 ans, c'est très difficile. C'est un vrai mur biologique, un vrai mur génétique, et il va falloir beaucoup, beaucoup de milliards et beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle pour casser ce mur qui est un mur difficile à casser. Jusqu'à maintenant, on a fait le facile. Hein. Sous Louis XV, l'espérance de vie était de 25 ans chez les hommes et 27 ans chez les femmes. On a multiplié par 3 l'espérance de vie. Vous l'avez dit, on a dépassé 80 ans, mais casser le mur de 122 ans de Jacques Calment, il y a vraiment beaucoup de boulot. D'ailleurs, les dirigeants de la Silicon Valley, les milliardaires de l'intelligence artificielle qui ne veulent pas mourir, investissent beaucoup d'argent parce qu'ils sont convaincus que la super intelligence artificielle va permettre de casser ce mur des 122 ans. Ils pensent que l'extrême complexité de la biologie, du vieillissement, ne peut être cassée, ne peut être compris que grâce à la super intelligence artificielle qu'ils sont en train de construire.
Mais, comment, alors là je m'adresse aux médecins que vous êtes, comment en régénération nos cellules, par exemple, ça permettrait de bloquer notre vieillissement?
Alors, en comprenant les facteurs qui nous font vieillir. Oui, il y a des espèces de baleines qui vivent 60 ans, il y en a qui vivent 200 ans, pareil pour les requins. Et ce sont des données génétiques. qui explique ces différences incroyables d'espérance de vie dans des espèces relativement proches. Donc l'idée, c'est de trouver les facteurs qui favorisent le vieillissement chez nous et de l'antagoniser. Il y a déjà des thérapeutiques qui permettent de retarder le vieillissement chez les souris et chez les rats. Le but, c'est de trouver les mêmes mécanismes dans l'espèce humaine.
Alors vous le dites, à défaut de l'immortalité biologique, on nous promet l'immortalité numérique. Alors de quoi s'agit-il ?
C'est le grand débat qui a eu lieu entre Elon Musk, le fondateur de SpaceX, le propriétaire de Twitter, le fondateur des fusées SpaceX.
Et puis surtout Larry Page, de Neuralink, en l'occurrence.
Et de Neuralink, bien sûr. Et puis Larry Page, qui est le copropriétaire, cofondateur de Google. Larry Page explique devant Elon Musk que le cerveau humain est has-been, est terminé, ne peut pas lutter contre l'IA. Et Elon Musk se fâche, dit qu'il faut sauver le corps biologique, le cerveau biologique des humains et que nous devons faire de l'IA un outil et non pas notre successeur comme les dirigeants de Google le souhaitent. Ils se sont fâchés, ils ne se parlent plus d'ailleurs. Et Elon Musk, après ces discussions multiples et extrêmement violentes avec le fondateur de Google, décide de créer Neuralink pour nous augmenter et nous mettre à niveau avec l'intelligence artificielle avec un argument: l'intelligence artificielle va nous dépasser. Mais pour éviter qu'elle nous écrabouille et nous remplace comme les dirigeants de Google le souhaitent, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est d'augmenter le cerveau humain. Et donc, il crée la société Neuralink destinée à mettre des microprocesseurs, des circuits intégrés dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Il veut en réalité sauver le corps humain en l'augmentant plutôt que d'acter notre remplacement par la super intelligence artificielle. Il faut savoir que l'inventeur de ChatGPT, Sam Altman, a de nombreuses reprises ces dernières semaines affirmé que la super intelligence artificielle, des millions de fois plus intelligente que l'intelligence humaine, sera là avant 2033. C'est donc, du point de vue de la Silicon Valley, un enjeu important et à relativement court terme, puisque 2033, c'est demain matin.
Oui, et ils voudraient bien en profiter tous. Hein.
Alors, c'est pour ça aussi que Sam Altman investit des centaines de millions de dollars dans des technologies pour faire reculer la mort. Quand on est aussi puissant que le fondateur de ChatGPT, on a envie de profiter de son pouvoir pendant quelques siècles ou quelques milliers d'années plutôt que de mourir à 85 ans.
Donc il y a ceux qui voudraient prolonger le plus longtemps possible notre corps biologique et puis il y a ceux qui se contenteraient éventuellement d'une immortalité numérique. Alors à quoi ressemblerait-elle ? Un hologramme ou un robot humanoïde qui nous ressemble, doté d'une intelligence artificielle nourrie de tous nos souvenirs et capable de se mettre à notre place et de parler comme nous, au fond.
Alors, ça pourrait être effectivement des robots enrichis par le contenu de notre cerveau, hein, ce qu'on appelle l'uploading, hein, c'est-à-dire de prendre les souvenirs qu'on a dans le cerveau et de les transférer sur un ordinateur. Hein. C'est ce que le vice-président de Google veut faire, Ray Kurzweil. Ça, c'est une première possibilité. Puis la deuxième possibilité, c'est qu'on perde notre individualité et qu'on devienne simplement une petite brique, un petit morceau d'une intelligence collective mélangeant les intelligences humaines et les intelligences artificielles et constituant ce que le jésuite Teilhard de Chardin avait imaginé en 1922, il y a 102 ans, c'est ce qu'on appelle la noosphère, la sphère des intelligences intégrant les machines et les intelligences humaines qui auraient fusionné. Donc on a effectivement sur la table deux scénarios.
Mais attendez,
moi, en réalité, aimant beaucoup skier, aimant beaucoup manger, je préférerais un scénario où on sauve le corps humain biologique plutôt que d'être sur un petit morceau de microprocesseur. C'est un débat que j'ai d'ailleurs avec Luc Ferry, le philosophe qui connaît très très bien l'intelligence artificielle et qui explique très bien que de passer quelques millions d'années dans un circuit intégré ne l'amuse pas du tout. Il préfère l'immortalité biologique.
Mais l'immortalité numérique, au fond, c'est un peu même genre d'immortalité virtuelle qu'a permis déjà l'invention de la photographie ou du film ou d'Internet.
Hein, c'est la poursuite.
Qui ont permis de conserver le souvenir de nos morts.
C'est la poursuite des souvenirs numériques, virtuels, que la photographie, vous avez raison de le dire, a entraîné à partir de son invention en 1800.
Voilà, avant ça, on ne se souvenait pas du visage de nos parents décédés. À partir de là, on a pu s'en souvenir.
Sauf les grands bourgeois qui avaient
des peintres.
Qui qui utilisait des peintres pour garder le souvenir des ancêtres.
Mais reconnaissez qu'on ne peut pas parler là d'immortalité. Effectivement, si tous ces souvenirs étaient transférés dans un robot ou un hologramme qui parle comme nous, on y croirait un peu plus.
Nous sommes bien d'accord. Cette immortalité numérique est à l'immortalité biologique ce que les œufs de maquereau sont au caviar.
Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc, pour tous ceux qui préfèrent garder leur corps, il va falloir qu'on s'intéresse au plus près, au progrès des nanobiologies...
Des technologies d'augmentation de l'espérance de vie, bien sûr. Mais le débat dans la Silicon Valley, il est très fort là-dessus. Il y a beaucoup de milliardaires qui commencent à être un peu âgés, hein, parce que les milliardaires de l'intelligence artificielle, c'était des gamins en 1995, au début d'Internet. Aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés. Il y en a beaucoup qui souhaitent prendre des risques avec l'intelligence artificielle pour aller le plus vite possible vers la super intelligence artificielle, parce qu'ils sont convaincus que l'immortalité biologique ne peut arriver que si on a des super intelligences artificielles. D'un autre côté, il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle qui pensent que cette course à la super intelligence artificielle, elle est dangereuse. Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur des intelligences artificielles modernes et qui a démissionné de Google de façon fracassante il y a quelques mois, a déclaré le 19 février 2024, il y a finalement quelques semaines, au Financial Times, qu'il estimait qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine la totalité des humains d'ici 2044. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'inventeur des intelligences artificielles de type ChatGPT.
Justement, il est très intelligent, il sait comment faire pour que...
On voit que cette course à la super intelligence artificielle pour faire reculer la mort, elle inquiète une partie des experts de l'intelligence artificielle qui pensent qu'on va trop vite.
Mais alors, justement, je reviens à vous en tant que médecin. Où on en est dans les manières aujourd'hui de bloquer notre vieillissement? Est-ce qu'on a fait des progrès récemment?
Alors, s'il y avait la pilule qui rend éternel, ça se saurait. Il y a plein de charlatans qui proposent des médicaments pour augmenter l'espérance de vie, mais il n'y en a pas aujourd'hui sur le marché. Il y a des médicaments qui augmentent l'espérance de vie des gens malades. Mais il n'existe pas de médicaments aujourd'hui qui augmentent l'espérance de vie des gens non malades. On a des pistes avec un certain nombre de molécules qui sont testées aujourd'hui, comme la metformine, qui est un antidiabétique, mais les résultats ne sont pas encore arrivés. Donc aujourd'hui, la pilule qui rend immortel n'existe pas. La pilule qui fait reculer la mort chez les gens qui n'ont pas une maladie chronique, ça n'existe pas. Nous sommes dans le domaine de la recherche. Par pitié, n'allez pas voir les charlatans qui vendent des remèdes contre la mort ou pour augmenter l'espérance de vie. Cela n'existe pas en 2024, mais il y a plein de charlatans qui en vendent, qui vendent des pilules très chères censées faire reculer la mort, mais ça n'est que du charlatanisme.
Merci Laurent Alexandre. Votre nouveau livre s'intitule « ChatGPT va nous rendre immortels ». Il est paru chez Jean-Claude Lattès.
Merci.
Et dans un instant, on va retrouver Cyril Siama, le directeur du musée des impressionnismes à Giverny. Et pour cause, c'est le 150e anniversaire de l'impressionnisme.
Europe 1.
Et je vous rappelle que Au cœur de l'histoire, présenté par Virginie Giraud, c'est le samedi et le dimanche de 15h à 16h. Aujourd'hui, plongée au cœur de l'origine des monstres avec l'histoire de Mary Shelley et la naissance de Frankenstein et de sa créature, et Bram Stoker, le père de Dracula.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Il y a 150 ans, le 15 avril 1874, ouvrait à Paris la première exposition des peintres impressionnistes. La suite, on la connaît, la critique se déchaîne, elle leur reproche à la fois leur manière de peindre et le choix de leur sujet. Il faut dire que l'impressionnisme révolutionne complètement la peinture, hein, renversant d'un coup 4 siècles de conventions. Cyril Siama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du musée des impressionnismes à Giverny, et pour célébrer ce 150e anniversaire, vous avez choisi d'organiser une exposition totalement inédite avec l'aide du musée d'Orsay qui vous a prêté 16 chefs-d'œuvre. C'est l'impressionnisme et la mer qui dure jusqu'au 30 juin. Pourquoi la mer ?
C'est un thème extrêmement fédérateur, plaisant et ambigu, qui nous fait voyager, qui nous fait rêver, et qui, finalement, ce sujet n'avait pas été traité dans une exposition en tant que telle.
Mais pourquoi l'impressionnisme et la mer ? Vous auriez pu faire l'impressionnisme et la campagne.
L'impressionnisme et la campagne, ça a déjà été fait. Et ce qui nous intéresse à Giverny, c'est de trouver des sujets un peu inédits, qui fait aussi référence à la recherche récente. Et donc on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses sur les loisirs balnéaires et les impressionnistes, sur la femme et les impressionnistes, sur des artistes impressionnistes femmes comme Berthe Morisot, par exemple, ou Marie Cassatt. Mais ce sujet, qui est tellement fondamental pour l'impressionnisme, ben, je trouve que c'était bien de le mettre à l'honneur pour les 150 ans, revenir aux bases. À Orsay, il y a 1874, à Giverny, il y a la mer. Évidemment, à Orsay, il y a Impression au soleil levant qui est présenté.
Voilà,
on aurait adoré la voir.
Voilà,
qui
est le tableau de Claude Monet qui va donner son nom au mouvement, l'impressionnisme. Et c'est vrai que c'est une marine, hein, tout simplement une marine, une vue du Havre qu'il avait peint 2 ans avant l'exposition.
Absolument, en 1872, on a l'impression que c'est un portrait industriel, très brumeux, mais c'est quand même une marine magnifique et on voit très bien les bateaux. Donc c'est une impression, c'est un sentiment et c'est ça qui fait la modernité du tableau.
Alors qu'apporte exactement l'impressionnisme de nouveau en 1874 et pourquoi va-t-il mettre si longtemps à s'imposer ? Car il faudra attendre 12 ans hein, en 1886, la première exposition impressionniste à New York pour que ça commence à se vendre.
Ça s'est vendu grâce à Durand Ruel, qui était le marchand des impressionnistes, qui fait une exposition incroyable à New York, qui présente Monet, Renoir, et les impressionnistes sont alors collectionnés par les amateurs américains.
Les riches industriels
américains. Les riches amateurs américains.
Alors qu'au même moment, les riches français, ils achetaient des Rembrandts.
Absolument, mais c'est aussi dû à une artiste comme Marie Cassatt, qui fait aussi l'intermédiaire entre l'impressionnisme français et les Américains. Elle conseille des amis assez riches à New York d'acheter de l'impressionnisme.
Elle-même est une peintre impressionniste, elle a fait partie du groupe impressionniste, pas dès la première exposition, mais ensuite.
Hein, absolument, et elle peint des magnifiques maternités. Pourquoi ça prend tant de temps ? En 1874, on est dans une situation politique un peu compliquée. La France a perdu la guerre de 70-71, franco-prussienne. Il y a eu la commune et l'économie n'est pas très florissante. On se fait plaisir, on garde un peu des valeurs sûres sur le salon où on présente des artistes assez académiques. Et donc cette peinture impressionniste, ça prend tout le monde de court en fait. C'est un peu une révolution. Et les critiques sont désarçonnées. Il y a quand même des critiques bienveillantes, mais évidemment la critique, elle est plutôt ironique. Et il va y avoir 10 ans à peu près pour que ça fonctionne bien pour les impressionnistes.
Mais qu'est-ce qui les choque à ce point, les critiques ? C'est parce que ça ne ressemble pas ?
Ça ne ressemble pas et puis ce n'est pas beau, en fait. Pour eux, ce n'est pas le grand idéal de la peinture qui doit représenter des idéaux sociaux, historiques, économiques, de la mythologie, des grandes batailles, la grandeur de la France. Et eux, ils représentent les impressionnistes, ceux qui voient, c'est-à-dire les peintres en bâtiment, les fleurs, les jardins, la gare Saint-Lazare. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui bouleverse.
Et ce qu'ils voient aussi, c'est la mer. Et la mer, ça a une importance, vous l'avez dit, fondamentale pour les impressionnistes. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que Monet, Renoir, Degas, Manet, Caillebotte, Jonquin ne voient pas la mer de la même façon. Et rien que pour ça, ils méritent le qualificatif d'impressionniste, hein, que leur colle un critique en colère pour les ridiculiser, sans comprendre que c'est justement là leur génie. Et ce qui fait que 150 ans plus tard, on les admire partout dans le monde.
Oui, ce qui est aussi intéressant, moi, si on a assez bouleversé, c'est de voir qui était le plus proche de la mer et comment on comprend la mer. Alors Pissarro, par exemple, lui, il découvre la mer, mais il la peint depuis un hôtel, une chambre d'hôtel. Donc c'est très cinématographique, c'est assez loin. Mais quand on regarde les tableaux de Caillebotte, lui, c'est un vrai marin qui gagne des régates. Donc il y a un mouvement qui est différent. Monet, lui, il a son bateau, c'est un bateau qui va sur la Seine. Et donc quand il va à Belle-Île en mer, il est assez époustouflé par la tempête, il dit que c'est l'océan, c'est autre chose que la Manche. Il dit même qu'il faudrait être fou pour arriver à rendre ça. Donc, c'est des artistes qui découvrent aussi la violence des éléments. Ils ne s'y attendaient pas. Il y a un côté très doux en Normandie, mais quand ils vont en Bretagne, c'est autre chose.
Il y a un lien particulier entre les impressionnistes et la Normandie. Pourquoi la Normandie ? Pourquoi pas Biarritz, qui avait été mis à la mode sous le Second Empire, dont on sort à peine, là ?
Il ne faut pas oublier que l'impressionnisme est né au Havre. Monet est né à Paris en 1840. Il est arrivé à l'âge de 5 ans au Havre. Et donc, il peint son entourage immédiat. Et parmi son entourage immédiat, évidemment, il y a la mer. Et il rencontre Boudin. Et Boudin est un des précurseurs, évidemment, de l'impressionnisme. Monet a dit qu'il devait tout à Boudin. C'est son seul maître. Après, il dit que Jonquin a été un maître important aussi. Donc, ce sont deux modèles qui vivent en Normandie. Et en Normandie, les impressionnistes, c'est aussi des touristes. C'est-à-dire que c'est les Parisiens qui vont en Normandie pour passer aussi les vacances, voir la famille de Monet, la famille Lecadre. Ils prennent le train Et de Paris au Havre, bah, il y a le train qui est plus rapide. Donc, ils arrivent tous les touristes.
Plus rapide qu'aujourd'hui. Hein, vous dites dans votre préface que c'est 5 heures à l'époque. Hein, Paris-Le Havre, c'est 5 heures. Mais pour eux, c'est la porte à côté.
Voilà, c'est une échappatoire par rapport au Paris industriel. Et puis, ça fait rêver la mer. Donc, ils ont envie aussi de s'échapper à un monde un peu oppressant.
On fait une pause, Cyril Siama, et on continue de parler de l'impressionnisme et de la mer juste après.
Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Tadéhi.
On célèbre le 150e anniversaire de l'impressionnisme avec Cyril Siama, le directeur du musée des impressionnismes à Giverny, qui organise une exposition L'impressionnisme et la mer jusqu'au 30 juin. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont intéressés, les impressionnistes, au début en tout cas, ils sont plutôt intéressés à l'activité des ports, hein, le départ et le retour des bateaux, l'agitation des quais. C'est au fur et à mesure, en fait, qu'ils se rapprochent de l'eau, ils sont happés progressivement par la lumière et par les reflets.
Oui, bah, je crois qu'ils sont comme tout le monde, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on arrive dans le port, on découvre l'agitation, et donc ils vont commencer à croquer des personnages. Donc Boudin, il va présenter par exemple la poissonnerie, il va présenter des personnes se baladant sur les rues, et puis au fur et à mesure, ils sont un peu plus à l'aise. Donc c'est des touristes qui arrivent, et puis ils prennent une chambre d'hôtel, et puis ils prennent leur marque, et finalement ils s'installent, ils commencent à découvrir davantage le site, et ils vont s'approcher de plus en plus de l'eau.
Vous parlez de s'installer, il y a la ferme Saint-Siméon qui est aujourd'hui un relais château 5 étoiles à Honfleur, mais à l'époque c'était le rendez-vous des peintres impressionnistes.
Oui,
c'était pas cher,
l'auberge était agréable, il y avait un bon accueil, et puis c'est un spot qu'on se donne entre copains avec une très belle vue, ça intéresse aussi les artistes, donc ils payent aussi leur repas en donnant des tableaux, donc c'est aussi très très familial.
Vous avez parlé à plusieurs reprises d'Eugène Boudin, Cyril Siama. Il est né à Honfleur en 1824. Il a 16 ans de plus que Monet et Renoir. Et il va avoir beaucoup d'influence sur toute cette petite bande. Hein.
Oui, c'est vraiment la figure tutélaire, paternelle, sympathique, qui va aider Monet, qui est alors un jeune caricaturiste, qui va l'emmener en fait dessiner sur la hauteur d'Honfleur, à tel point que les pastels de Monet et ceux de Boudin sont souvent confondus. Il y a une touche et un regard sur le soleil, sur l'eau, sur la terre qui est très proche entre Monet et Boudin. Ils se sont fréquentés toute leur vie et Boudin a aussi eu une influence sur Monet, mais Monet a aussi une influence sur Boudin. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la carrière de Monet, Boudin va regarder de plus en plus Monet. Et à la fin de sa vie, Boudin va être un petit peu déçu parce qu'il voulait absolument avoir une œuvre de Monet. Il a écrit à Monet et Monet ne lui a pas offert cette œuvre-là.
Ils sont terribles, les peintres, hein, pour s'offrir des œuvres entre eux. Hein. On sait que Van Gogh et Gauguin se sont disputés parce que Gauguin voulait bien échanger des Gauguins contre des Van Gogh, mais il voulait bien échanger un Gauguin contre deux Van Gogh.
Voilà.
Ça a été un point de départ assez tumultueux.
Absolument.
Pour rester sur Eugène Boudin, qui a 50 ans hein, au moment de la première exposition impressionniste dont on célèbre le 150e anniversaire, et donc qui fait figure à ce moment-là de précurseur de l'impressionnisme, d'ancien, quasiment les autres sont plus jeunes, il a été le premier à peindre les vacanciers sur les plages normandes, hein, vers 1862, à l'époque on ne disait pas les vacanciers, on disait les estivants, et plus particulièrement les estivantes, il parlait de ces petites dames sur la plage.
Oui, parce que à la station de Deauville, Trouville, c'est lancé par l'élite de Napoléon III, et donc lui, il découvre ces crinolines, ces jeunes femmes magnifiquement habillé. Il trouve que c'est extrêmement pittoresque et à la fois commercial. Et il se rend compte que ces petites dames marchent bien. Il commence à en vendre et donc il multiplie les esquisses et ça devient un peu une marque de fabrique de Boudin. Mais il y a beaucoup d'humour dans les dessins de Boudin et les peintures de Boudin.
C'est Baudelaire qui est le premier à parler de Boudin dans ses critiques d'art, car il était critique d'art, hein, Baudelaire. C'était un excellent critique d'ailleurs, et il chérissait la mer, comme le poème le dit. Baudelaire, il joue un rôle dans l'impressionnisme ou seulement sur la carrière de Boudin?
Il joue un rôle dans l'impressionnisme, évidemment, puisqu'il considère que Boudin, c'est le maître des ciels. Donc c'est vraiment un précurseur Baudelaire pour découvrir le talent de Boudin. On est en 1859. Baudelaire n'est pas un artiste, un écrivain très très célèbre. Il va séjourner 6 mois à Honfleur, on oublie un peu ça. Donc il a beaucoup fréquenté Boudin. Et puis dans la critique de Baudelaire, il y a le peintre de la vie moderne et il met Manet. Et donc il lit Boudin et Manet dans la vie moderne et ça c'est fort.
C'est vrai que vous avez dit le mot ciel. Quand on fait une exposition comme la vôtre sur l'impressionnisme et la mer, on fait aussi une exposition sur l'impressionnisme et le ciel. Hein.
C'est vraiment une exposition sur le ciel. En fait, on se rend compte à quel point le ciel prend une part prédominante dans la toile. C'est souvent les deux tiers de la toile et un tiers, c'est la mer. Et donc, ils sont fascinés par les éléments, que ce soit à la fois le soleil, mais aussi les nuages, la tempête, le ciel gris, le ciel un peu mauve, même les clairs de lune. Donc, c'est vraiment une impression de lumière. C'est ça. Et le ciel est évidemment un thème fantastique pour eux.
En ce moment, vous les avez tous sous les yeux dans cette exposition. Est-ce que vous êtes dit, tiens, au fond, le meilleur pour la mer, c'est lui, et le meilleur pour le ciel, c'est un autre?
Alors, le meilleur pour le ciel, à mon sens, c'est Boudin, qui est absolument incroyable, parce qu'il a une touche fragmentée, délicieuse. Il trouve des couleurs qu'on ne trouverait pas, nous, naturellement. Et puis, sur la mer, je trouve que Monet est extraordinaire. Il y a des vues de Belle-Île en mer qui sont incroyables. On est quand même fasciné par la technique. C'est un peintre immense. Il y a à la fois le regard, et puis nous, il nous force à être acteurs de sa peinture. On est obligé de rentrer dedans, d'essayer de comprendre ce qui s'y passe et ce que lui a affronté. On voit aussi chez Monet la violence des éléments. Il a dû lutter contre l'eau, lutter contre le vent, contre le sable. Et on sent que c'est très abouti.
On l'a oublié, mais au fond, toutes les avant-gardes qui vont se succéder ensuite, à partir du pointillisme, vont toutes se dresser contre les impressionnistes. Hein, c'est ce qui est assez drôle. Mais aujourd'hui, 150 ans après, les impressionnistes font l'unanimité dans le monde entier. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on aime tant les impressionnistes aujourd'hui?
Je pense que ce qui plaît encore de nos jours à l'impressionniste, c'est que c'est une peinture qui rassure, qui fait du bien. C'est un peu les peintres du bonheur, d'un art de vivre. Et puis, c'est une peinture universelle. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances en histoire de l'art, en histoire, en politique, en religion. Et donc, on se sent tout de suite à l'aise, on comprend tout de suite que c'est un tableau impressionniste qui est daté d'une certaine époque, avant la Première Guerre mondiale. Et on a aussi cette nostalgie, je pense, à cette époque-là.
De la Troisième République, donc entre la guerre de 70 et la guerre de 14, au fond, une longue période de paix. Merci Cyril Sciamma. L'impressionnisme et la mer, votre exposition dure jusqu'au 30 juin au Musée des Impressionnismes à Giverny, dont vous êtes le directeur.
Merci Frédéric.
Europe 1.
C'est arrivé demain, est arrivé à son terme. On se retrouve samedi prochain à 9h. Je vous souhaite une excellente semaine sur Europe 1.